Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius.
L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau rouge et tiède comme le sang. L'oiseau si tendre, l'oiseau moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur. L'oiseau qui soudain se cogne, l'oiseau qui voudrait s'enfuir, l'oiseau seul et affolé. L'oiseau qui voudrait vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait crier. L'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau qui vole si doucement. C'est ton cœur joli, enfant, ton cœur qui bat de l'aile si tristement contre ton sein si dur, si blanc. Jacques Prévert.
Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius.
Bienvenue dans ce Loft Music du jeudi 19 novembre, ravi de vous accueillir. Le jeudi, vous le savez, depuis deux semaines, eh bien, on consacre ce Loft Music à parler de la situation du milieu culturel, le secteur culturel, artistique auquel nous sommes dans le Loft et sur Sud Radio très attachés. Et voilà, pour vous prouver qu'on est là et que surtout on est solidaires, eh bien, on ouvre l'antenne une fois par semaine dans ce Loft à un certain nombre d'acteurs de ce milieu culturel qui ont besoin de s'exprimer, d'échanger et besoin de vous parler à vous qui nous écoutez tous les soirs à 20h, de plus en plus nombreux dans ce Loft. Merci d'être là. C'est donc la deuxième émission spéciale Alerte Culture en cette période de crise dans laquelle vous savez que le secteur culturel et ses métiers sont touchés de plein fouet par cette pandémie et la crise économique qui en découle. Alors, êtes-vous prêts, quand ça va se calmer, à revenir dans les salles de concert, dans les salles de spectacle? À quoi peut ressembler le monde de la culture après le coronavirus? Quelles sont les solutions possibles? Et puis, on parlera aussi de quelques initiatives ingénieuses, nées de ces contraintes assassines. Les contraintes, je le dis souvent, sont toujours motrices pour l'inspiration. Avec nous ce soir, dans le Loft Music, pour parler, pour échanger, eh bien, au cours de cette émission, on aura Bertrand Fontex, producteur de spectacles et citoyen du monde, comme il aime le crier. Serge Regour, président de la commission culture de la région Occitanie et conseiller régional, donc, cette région présidée par Carole Delga. Nous aurons également Jérôme Tréoel, directeur du Festival des Vieilles Charrues à Carex, en Bretagne. Et puis aussi Marie Barbier de Ticket Swap à propos d'une initiative européenne de sauvetage des salles de spectacle, ça tombe bien. Également avec nous ce soir sur Sud Radio dans le Loft Music, Philippe Dumas, directeur de l'Apollo Théâtre à Paris. Vous en avez entendu parler récemment. Ce théâtre organise des concerts en live stream depuis déjà 2-3 ans, même peut-être plus. Mais en ce moment, voilà, c'est plus que jamais d'actualité. Et Éric Lafond de Toulouse, administrateur, une ville du sud de la France à laquelle je suis attaché, administrateur délégué du groupe La Dépêche du Midi. On parlera avec lui notamment de la partie Evans. Alerte Culture, donc ce soir dans le Loft Music en direct avec nos invités et avec vous, évidemment, si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Léa vous attend sur le 0826 300 300 et puis sur les réseaux sociaux. Là, c'est Enzo Ramos qui vous accueillera sur tous les réseaux sociaux du Loft Music de Sud Radio où vous pouvez donner vos avis, participer. Vous verrez, on a d'ailleurs fait un petit sondage. Enzo Ramos en est chargé en demandant si vous étiez prêt à retourner dans les festivals et dans les concerts. On vous donnera le résultat de ce sondage dans quelques secondes. Pour l'heure, voici qu'arrive Bertrand Fontex, producteur de spectacle. Salut Bertrand, merci d'être
bonjour
là.
Bonjour Yvan.
Ravi de t'accueillir Bertrand. On a fait depuis le reconfinement, même depuis le mois de septembre avec toi, quelques points comme ça pour suivre l'évolution du secteur culturel auquel on est évidemment très attaché, un secteur essentiel pour nous, évidemment. Et ce soir, ben, j'ai envie de te dire, voilà, où en est-on? Est-ce qu'on est dans une reprise lente? On entend de ci, de là, plein de choses. Où en est-on, Bertrand Fontex?
Bon, bah écoute, Yvan, je me dois d'être optimiste, mais je te cache pas qu'on est toujours au point zéro. À en voir les chiffres qui sont tombés ce soir d'Olivier Véran, il y a encore 32 500 hospitalisés, il y a 6 500 personnes en réa. C'est clair que c'est un peu la psychose, mais je me veux d'être optimiste parce qu'il y a quand même des petits signes avant-gardistes qui font qu'on se doit d'être optimiste. Moi, je milite, alors peut-être que c'est un peu utopiste de ma part, mais je militerai pour une ouverture des salles, des petites salles de 100 à mettons à 500 personnes vers le 17 décembre, j'ai quelques contacts à ce sujet et tout, c'est très très difficile, mais à partir du moment où les petits commerçants seront ouverts, il y aura quand même une certaine frénésie d'achat. Je pense que la magie de Noël, la magie des fêtes de Noël et des jours de l'an se va aussi sur les théâtres, les salles de spectacle, avec les spectacles de Noël, etc., pour mettre des étoiles aussi aux spectateurs, quoi. Et puis cet engouement des fêtes de Noël va pouvoir peut-être nous servir. Mais le dieu Covid n'est pas avec nous en ce moment.
Oui, on est bien d'accord. On va parler, on va avoir dans quelques secondes Serge Regour, je le disais, qui est conseiller régional à la région Occitanie, présidé par Carole Delga, et puis qui va nous faire un petit peu état de ce qui est fait par les régions, comme la région Occitanie, pour soutenir justement le secteur. Est-ce que ça se passe bien avec l'État? Est-ce que ça se fait de concert pour avoir une terminologie adaptée? On aura également Jérôme Tréorel, je pense qu'ils sont arrivé peut-être déjà. Jérôme Tréorel, le directeur du Festival des Vieilles Charrues. Il est là, Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Merci d'être là, Jérôme Tréorel.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre en tant que directeur de ce magnifique Festival des Vieilles Charrues. Eh bien, vous l'avez, je l'ai lu, hein, vous avez fait des constats chiffrés en avançant des chiffres qui font frémir, hein, de plus de, je crois, dans les impacts sur notamment la ville de Carhaix, plus de 5 millions d'euros selon vos calculs, que j'ai cru lire. Le fait que les Vieilles Charrues soient annulées, c'est évidemment affolant. Est-ce que là, il y a des aides précisément qui peuvent compenser cette perte?
Effectivement, sur les Vieilles Charrues, c'est 18 millions d'euros d'impact économique sur le territoire de Carhaix, 5 millions de création de richesses, hein, d'argent généré du fait de la tenue des Vieilles Charrues. Il faut savoir que les Vieilles Charrues, c'est un festival 100% associatif, un festival qui n'a pas de subvention, mais qui a un impact depuis donc de nombreuses années à peu près dans les mêmes hauteurs, hein. On est passé entre 2011 et 2018 de 11 millions à 18 millions d'euros d'impact économique sur le territoire, et que là aujourd'hui en situation de crise, même si on n'a pas de subvention le reste du temps, eh bien on demande à être accompagné par les collectivités et par l'État pour justement pouvoir maintenir le même impact dès la reprise. Et aujourd'hui, c'est des sujets qu'on est en train de discuter parce que ça a un impact très important sur le territoire en termes d'image, en termes de culture, en termes économiques, on en a parlé, mais en termes social. C'est énormément d'embauches directes et indirectes qu'on a sur le festival. Et que je pense que, voilà, ça a été déjà dit, le PIB, un équivalent au PIB entre la culture et l'automobile, c'est plus fort. Ouais. Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, mais on a plus de 600 000 personnes.
Des vrais choix politiques.
Des vrais choix politiques. Qui travaillent sur le secteur culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'ailleurs, on va l'entendre, avant que vous répondiez à la question que je ne vous ai pas posée, d'ailleurs, Jérôme, on va écouter ce que disait Michel Jonas, Bertrand Fontex, je t'invite aussi à l'écouter. Il était sur France 2 il y a très très peu de temps, Michel Jonas, et il disait ceci, écoutez.
La culture a été absente de tous les débats télévisés. J'étais sidéré, j'avais envie de dire « Oh, et nous, on existe, nous aussi, on a souffert ». C'était incroyable, ça. Évidemment qu'un être humain qui meurt, c'est plus grave qu'un théâtre qui ferme. Mais est-ce que un théâtre qui ferme, c'est moins grave qu'un restaurant qui ferme? La culture, c'est quand même l'âme d'un pays, c'est quand même son identité. Et on a été, moi, c'est mon impression, je le dis, les libraires fermés, les disquaires fermé. Non, mais c'est hallucinant, quoi, ça. Parce que si on ne devient pas une priorité, le monde de la culture, les comédiens, les techniciens, les intermittents, les éditeurs, les auteurs, les compositeurs, les chanteurs, les danseurs, etc. On est quoi? On n'est pas une priorité. Alors là, à mon avis, ça devient dangereux.
Vous confirmez, Bertrand Fontex, Jérôme Tréorel, Bertrand en premier, que la culture est absente, curieusement, j'allais dire, des débats. C'est ce que dit Michel Jonas à l'instant.
Elle est absente des débats, oui et non, mais le problème c'est que on n'est pas dans le dur pour l'instant, c'est que les gens n'ont pas compris que, par exemple, on parle des restaurants parce que la cuisine c'est la nourriture du corps, mais la culture c'est la nourriture de l'esprit, et le corps et l'esprit ne vont pas l'un sans l'autre et vice versa. Donc c'est clair que quand on n'aura pas pris conscience que si on ne s'occupe pas de la culture, le public, les spectateurs, les gens, la culture ça fait partie partie de notre quotidien. La culture, vous avez dans la rue, vous avez dans la voiture, vous avez au travail. Ce matin, je regardais une joggeuse qui faisait son sport, elle chantait avec ses écouteurs sur les oreilles. La culture, c'est fondamental. Et là, je crois que ce n'est pas par rapport au débat, que ce n'est pas, une essence fondamentale, quoi. Mais il faut pas négliger la culture. Alors là, on entend parler des libraires. Ce qui est marrant, c'est que depuis peu, on entend parler des restaurateurs. Alors maintenant, tout le monde a envie d'aller au restaurant. Je trouve ça un peu, bon, voilà. Les libraires, tout le monde maintenant veut acheter des livres, etc. Mais la musique, dans l'histoire, quand tout le monde veut aller voir des spectacles, ça, on n'en parle pas. Bah oui, mais il faut y aller au spectacle. Donc j'attends avec impatience. Nous, ce qui nous manque, Yvan, c'est de la visibilité. C'est-à-dire qu'on ait les aides, on a eu un premier, un deuxième, un troisième fonds de sauvegarde. Là, le fonds de sauvegarde, ça nous permet de tenir artificiellement, c'est-à-dire qu'on est tenu à bout de bras jusqu'à la fin de cette année, puisque Madame la ministre Roselyne Bachelot et notre syndicat ont milité grâce aussi évidemment à Monsieur Bruno Le Maire, Monsieur le ministre des Finances, d'avoir des aides supplémentaires qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la fin de l'année. Je pense que Jérôme est aguerri, il est plus technique que moi au Prodis pour connaître tous les tenants et aboutissants des sauvegardes. Mais là, on parle du moi, ce que je voudrais voir, c'est avoir de la visibilité, surtout savoir comment on va faire pour le plan de relance, parce que nous, et Jérôme me contredira pas là-dessus, moi je suis plutôt dans les, entre guillemets, les grosses machines de guerre, les plus de 5000 spectateurs. Nous, sur les plus de 5000 spectateurs, malheureusement et tristement, on n'a aucune visibilité, et là c'est le cas au total, jusqu'à 2022, enfin pour ma part, jusqu'à 2022. On n'a rien du tout, on est dans le noir complet, blackout. Ouais. Moi j'ai fait aucune...
On va en parler.
Ouais. Depuis le 9 mars, pardonne-moi, j'ai eu aucune date depuis le 9 mars, jusqu'au mois d'avril, je n'ai rien. Voilà, c'est clair.
Malheureusement, bien sûr, c'est dramatique, on est d'accord. Serge Regour va nous rejoindre dans quelques secondes. Le temps pour moi de faire réagir Jérôme Tréhorel. Pourquoi j'arrive pas à dire Tréhorel?
Je dis Tréhorel. Je sais pas, tu es arrivé la dernière fois.
Moi, je m'appelle Cugius, en plus, c'est encore voilà, plus compliqué plus que Tréhorel. C'est incroyable, c'est plus dur même. Jérôme, tu entendais tout à l'heure Jonas qui parlait de cette culture absente des débats, il disait quelque chose de fondamental à la fin, ce qu'il dit, c'est dangereux. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'on constate qu'on n'en a pas trop parlé, c'est que l'absence de la culture dans les débats est un événement dangereux.
Oui, je suis d'accord sur la forme avec Michel Jonas, je suis d'accord avec Bertrand sur ce qu'il dit également sur la forme. Après, il ne faut pas se mettre en opposition avec d'autres secteurs d'activité qui sont aussi en grande difficulté. C'est pas le but. Il faut qu'ensemble, on arrive à redémarrer ensemble. Quand on fait un festival, quand on fait un concert, les gens, avant ou après, ils vont prendre un verre, ils vont manger, ils vont dans un restaurant, etc. Il faut qu'on travaille et réfléchisse ensemble. Effectivement, aujourd'hui, on est empêchés. Il faut trouver les solutions pour pouvoir redémarrer ensemble. Et moi, j'ai pas envie d'être dans un combat où on s'affronte. Il faut réfléchir. Et je pense qu'avec, effectivement... Roselyne Bachelot, etc., on peut essayer d'envisager l'avenir.
Mais Jérôme, mais c'est au-delà là, d'un affrontement entre secteurs, c'est que philosophiquement, j'allais dire, dans un moment comme celui-là, quand la culture n'est plus présente et quand on a des démarches d'interdiction de livres, etc., c'est là que c'est intellectuellement et philosophiquement préoccupant. Ça n'est pas uniquement un problème de comparaison avec d'autres secteurs, c'est dans la philosophie de la démarche qu'on peut être inquiet.
Je suis complètement d'accord, mais il y a deux choses différentes. Il y a entre aller dans un restaurant, un bar ou une salle de spectacle et aller acheter un livre. Pour moi, c'est deux sujets différents et je ne vais pas rentrer dans le débat de dire qu'on ne peut pas aller acheter un livre même en click and collect ou en prenant son téléphone, en appelant, etc. et aller dans un lieu où il y a plusieurs personnes dans une situation où la situation sanitaire, elle est compliquée. Il faut se dire qu'elle est compliquée, il faut que tous ensemble, on soit collectivement responsables pour qu'on puisse redémarrer le plus vite ensemble. Maintenant, derrière, il faut qu'on travaille intelligemment sur deux sujets pour moi. C'est un, comment on passe une année sans activité pour des événements Je prends l'exemple des Vieilles Charrues. L'exemple des Vieilles Charrues, il n'y a pas de subvention, c'est un festival 100% associatif. L'année, et on a fait très attention, d'une année sans activité, ça coûte 1,8 million d'euros. On n'a pas de subvention, bah c'est une double peine parce que certains, et tant mieux pour eux, tant mieux pour la diversité culturelle, parce que c'est ce qu'on défend, et ce qu'on a voulu défendre aussi nous, Vieilles Charrues, avec tous les autres festivals, c'est que tout le monde puisse repartir dès que ce sera possible, j'espère l'année prochaine ou dans les prochains mois, de manière équitable, parce que c'est un secteur qui a beaucoup évolué, les festivals, avec beaucoup de prises de participation, les grands groupes qui arrivent, et ça peut être normal parce que c'est une évolution de secteur, mais il faut qu'on arrive à mettre en place des clés de répartition pour avoir des choses équitables, afin que ce soit pas au détriment du public et des artistes.
En même temps, Jérôme Tréhorel, au fond, vous n'êtes pas vraiment menacé. Des machines comme les Vieilles Charrues ou les Franco de La Rochelle, ce ne sont pas les organisations, les événements qui sont le plus en danger. Vous serez toujours aidé. On va en parler tout à l'heure en quelques secondes avec Sergio.
Est-ce qu'il y a un vrai danger ?
Non, j'entends, Jérôme.
Je veux dire un truc simple, c'est que les Vieilles Charrues, c'est zéro subvention. C'est un budget, c'est une association, je vous l'ai dit, 100% associative. Il y a zéro subvention, c'est 17 millions d'euros de budget.
Si les Vieilles Charrues meurent dans cette crise, alors il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, c'est mort de plaine.
On est d'accord, c'est ce qu'on discute, et c'est là où je ne veux pas me battre, je veux discuter et construire l'intérêt des festivals, et on discute beaucoup, et on a notamment, il y a eu, et Bertrand était présent aux États généraux, Bertrand on a Fontex, été sollicité pour co-préparer les États généraux avec le ministère, et ça nous a permis d'expliquer l'organisation des festivals, notamment associatifs, afin de maintenir cette diversité culturelle qui est chère au président et chère à la ministre. Maintenant, il y a eu des mesures et des aides annoncées. C'est quels seront les critères afin de pouvoir aider équitablement tous les festivals, tous les organisateurs pour repartir, une fois que le Covid sera passé, à égalité sur la ligne de départ, afin que ce ne soit pas au détriment des artistes et du public. C'est ça l'enjeu.
J'ai bien compris. Jérôme Tréhorel, directeur du festival Les Vieilles Charrues. Bertrand Fontex est là également, producteur de spectacles. Nous sommes sur Sud Radio dans ce Loft Musique en direct pour parler du secteur culturel durement touché, éprouvé. Et nous rejoignons à l'instant Serge Regour, qui est à la région Occitanie, conseiller régional, et puis président de la commission culture du conseil régional Occitanie, présidé par Carole Delga. Bonsoir Serge Regour, merci d'être là.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, on parlait du lien, voilà, des aides qui peuvent être attribuées par les collectivités. On a du mal à y voir clair hein, quand on n'est pas exactement immergé au milieu du secteur culturel. Donc, par exemple, la région Occitanie, qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans cette crise ? Alors, première question. Et deuxième question, juste Serge, pardonnez-moi, est-ce qu'elle travaille de concert avec l'État ? Est-ce qu'il y a vraiment une main dans la main au moment où le président Macron dit « quoi qu'il en coûte », est-ce que c'est l'avis de la région Occitanie et auquel cas, si c'est pas le cas, comment on gère quand on n'est pas d'accord ?
Donc, très bonne question. D'abord, je voudrais très rapidement revenir sur ce que j'ai entendu précédemment pour faire part éventuellement d'un point de vue complémentaire, sinon un petit peu différent. D'abord, je crois que celui des intervenants qui a dit qu'il fallait évidemment pas imaginer des guerres, des batailles, de la culture.
Alors, il s'agit
par exemple,
Jérôme Tréhorel. Il s'agit de patron des Vieilles Charrues, directeur des Vieilles
Charrues. J'ai compris qui l'était, mais comme j'ai pris l'antenne en cours, je ne savais pas qui avait dit
bien
quoi.
Sûr. Et je suis là pour ça, moi, Serge, ne vous inquiétez pas.
Je trouve que ce qu'il a dit est très juste, c'est-à-dire qu'il ne convient surtout pas d'opposer le secteur de la culture, par exemple, au secteur de la restauration, des hôtels, du petit commerce, etc. Ça, c'est une évidence absolue. Il n'en reste pas moins qu'on peut quand même être troublé, en tout cas c'est mon cas, comme président de la commission culture de la région d'Occitanie, par le fait que dans deux discours fondamentaux, c'est-à-dire le discours du président de la République qui annonce le confinement et ensuite le discours de son premier ministre qui annonce les modalités précisément de ce deuxième confinement, ni l'un ni l'autre n'ont cité le mot culture. Donc, il faut bien distinguer entre les deux. Il ne s'agit pas d'organiser une guerre quelconque de la culture contre les autres secteurs, qui n'aurait aucun sens et qui serait complètement contre-productif. On peut néanmoins s'interroger sur la place qui est faite à la culture, ne serait-ce que dans le discours symbolique des responsables politiques.
Donc ça, quelle est votre explication ? Quelle est votre interprétation, Serge Rougour ? Est-ce que c'est intentionnel ? C'est intentionnel selon vous ?
Ah non, non, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas intentionnel. Moi, bon, je suis nullement étonné par cette manière de faire, parce que ça, c'est une autre précision que je veux donner, puisqu'avant d'être élu régional, j'étais universitaire, et mon terrain de compétence était précisément celui de la culture. C'est que on ne peut pas juger les politiques culturelles uniquement à un moment de crise, qui est la crise aujourd'hui de la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une cohérence, une continuité entre les politiques culturelles qui sont menées, j'allais dire, en temps normal, quand tout va bien, et ce que ça produit lorsqu'on est en temps de crise. Donc, je pense que les acteurs culturels, les porteurs de projets, auraient tort de se contenter, en quelque sorte, de raisonner sur un état pathologique qui est la crise liée à la pandémie, sans s'interroger sur la question globale des politiques culturelles. D'ailleurs, certains de vos intervenants ont posé des vraies questions qu'on ne peut pas évidemment trancher comme ça en quelques minutes à l'antenne, mais c'est notamment à propos des vieilles charrues, et je ne veux pas intervenir sur tel ou tel festival particulier, mais c'est une vraie question qui est posée et qui, de mon point de vue, déborde l'exemple d'un festival comme les vieilles charrues et qui, à mon avis, demain, devra être une des questions centrales, c'est quelle est la part dans le secteur culturel, des activités culturelles, notamment les festivals, les concerts, etc., qui ont la capacité de vivre dans la seule logique du marché, c'est-à-dire avec une billetterie, par rapport, en effet, aux aides publiques. Or, aujourd'hui, ces questions ne sont pas abordées, elles sont abordées de manière très confuse, de telle sorte qu'il y a des événements qui pourraient tout à fait vivre dans une pure logique de marché, sans aide publique, et bénéficient d'aides publiques importantes, alors que d'autres, qui sont directement comparables, n'ont pas accès au financement public. Ça, c'est une vraie question qui mérite d'être posée par-delà la crise.
Alors, je la pose. Tiens, Serge, je la pose. Je la pose, pardon, à Jérôme Tréorel du Festival Les Vieilles Charrues sur Sud Radio. Que répondre à Serge ? Est-ce qu'il y a vraiment peut-être des subventions qui sont mal attribuées ? C'est un peu ça, là, ce que dit Serge Rougour.
Non, mais c'est vrai, il y a deux sujets. Il y a le sujet de comment on passe une année sans activité, où il y a des aides, et notamment le ministère a annoncé 200 millions d'euros d'accompagnement pour passer une année sans activité. Et c'est là où on travaille fort, très fort, tous ensemble, de manière interconnectée entre les producteurs, les salles, les festivals, parce qu'on est tous liés, hein, sans les uns les autres, on ne marchera pas. Comment on distribue ça avec des vrais critères, justement, qui prennent en compte ceux qui ont déjà des subventions, ceux qu'on n'a pas, ceux qui sont des festivals 100% associatifs, ceux qui ont des parts de participation du fait de l'évolution du secteur, ou ceux qui ont été rachetés mais qui restent associatifs. Il y a des vraies questions philosophiques à se poser là-dessus pour justement maintenir cette diversité culturelle. La deuxième question à se poser, c'est comment on relance. On sait qu'aujourd'hui, on est tous, les festivals, en train de se poser la question de comment on va préparer 21. Moi, j'ai dit pour les vieilles charrues, quoi qu'il arrive, on fera quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on va le faire. Nous, le festival de 2020, on a dit que c'était un report. Il sera prêt. Il est prêt. Les billets, ils sont vendus. Mais on fera un point d'évaluation entre février et mars. On reviendra au même tempo qu'il y a quelques mois à se poser les mêmes questions. Où on en est dans l'évolution de la situation sanitaire ? Est-ce que les assises étrangers viendront, etc. pour prendre les bonnes décisions afin de prendre le moins de risques possible. Mais derrière, et c'est là, dans les états généraux, ce qu'on a travaillé, et moi, on m'a proposé d'y participer, justement avec la ministre, c'était de dire, voilà, comment on fait un état des lieux de ce qui se passe, et comment on évalue aujourd'hui les festivals qui sont devenus, et comme le disait monsieur précédemment, un vrai phénomène de société avec des vrais impacts économiques et sociaux et culturels sur les territoires. Donc c'est là où il faut construire, il faut bien baliser les aides, pour accompagner à la relance.
On en reparle, évidemment. Pardon, Jérôme. On fait juste une petite pause, hein, parce que vous savez, il faut qu'on vive. On fait une petite pause. On retrouve Serge Rougour, Bertrand Fontex, Jérôme Tréorel dans quelques secondes avec de nouveaux invités pour parler notamment d'initiatives très singulières en temps de crise. A tout de suite pour ce Loft Music spécial culture en direct.
Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cujius.
Je veux juste une dernière danse avant l'eau.
d'être avec nous dans ce Loft Music Alerte Culture ce jeudi 19 novembre. À l'instant, un petit extrait de Kyo, ce groupe qui sera avec nous en direct prochainement dans le Loft Music, comme sera d'ailleurs avec nous ici même lundi prochain Ibrahim Malouf, mardi ce sera Chimène Badi et mercredi, événement avec l'artiste de renommée internationale Assaf Avidan. Et puis Laurent Voulzy à venir, enfin beaucoup beaucoup de jolis moments, de belles soirées à passer avec vous. On est un peu plus sérieux ce soir que d'habitude parce que le sujet le nécessite, l'état du secteur culturel. On en parle avec Bertrand Fontex, producteur de spectacles, il est toujours avec nous, Serge Regour, président de la commission culture de la région Occitanie, présidée par Carole Delga, et Jérôme Tréorel, directeur du festival Les Vieilles Charrues à Carex. On aura tout à l'heure Marie Barbier à propos d'une initiative européenne de sauvetage des salles de spectacle. On va en parler, vous allez voir, c'est finement pensé. Philippe Dumas, directeur de l'Apollo Théâtre à Paris, qui organise des concerts en live stream, et Éric Lafond de Toulouse, administrateur délégué du groupe La Dépêche pour la partie Events. Merci d'être avec nous. Juste pour poursuivre ce qu'on disait juste avant la petite pause, Serge Regour,
oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même par la région Occitanie.
Voilà,
en allant vite, quelques exemples.
Alors, en allant très vite et très synthétiquement, je voudrais répondre aux deux questions que vous m'avez posées. D'abord, la région est intervenue, et d'ailleurs je salue ici la présidente Delga, que vous l'avez mentionné, parce que vous imaginez bien que dans une période de crise, il faut prendre des décisions immédiates. C'est pas une assemblée de 158 personnes qui peut évidemment avoir l'initiative. La réactivité, ça a été un, on a parlé des festivals annulés. Vous savez qu'il y a eu en Occitanie, dans la première période, 136 festivals qui ont été annulés. Et pour la période du confinement, la totalité des subventions ont été versées intégralement pour des festivals qui n'ont pas eu lieu, afin précisément de pouvoir directement payer les artistes et les intermittents concernés. Premier point.
Okay.
Deuxième point, on a voté un fonds d'urgence de 5 millions pour les associations, à l'intérieur desquelles, évidemment, la culture joue un rôle primordial en termes de fonds d'urgence, indépendamment, encore une fois, du versement des subventions pour les festivals n'ayant pas eu lieu. Pour en venir à la question du rapport avec l'État, nous avons mis pour la période actuelle en place un comité de veille qui se réunit mensuellement entre l'État, la région et les trois agences culturelles qui existent en Occitanie et qui sont cofinancées par la région et par l'État, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine du spectacle vivant et dans le domaine du livre, pour répondre précisément au cas par cas aux demandes de l'ensemble des acteurs de la filière culturelle. Enfin, dernier point, nous avons étendu un fonds d'urgence qui a pour dénomination le local, qui est financé à la fois par la région, par les départements de la région d'Occitanie, et nous avons mobilisé avec nous, outre les deux métropoles, 153 établissements publics de coopération intercommunale, précisément pour venir en aide à l'ensemble des entreprises du secteur culturel, associatif ou entreprises commerciales, qui ont été ajoutées, si vous voulez, à ce qui constituait le droit commun de ces aides dans le domaine de l'artisanat, du commerce, du tourisme, etc., etc. Oui. Alors évidemment, je ne veux pas entrer dans les détails des chiffres.
Non, mais c'est bien, on a une idée comme ça,
trop lourd,
bien sûr.
Mais en tout cas, je veux attester de la mobilisation extrêmement prégnante de la région, qui a réuni d'ailleurs à plusieurs reprises autour de Carole Delga les acteurs culturels. Oui. Et nous avons, outre les mesures d'ordre générique, un suivi au cas par cas, en fonction précisément des entreprises, des associations et des acteurs culturels qui sont dans les difficultés les plus sensibles.
Ouais, merci Serge Regour, président de la commission culture à région Occitanie. Bertrand Fontex, quand tu entends ça, toi, producteur de spectacles, tu te dis qu'il y a, bon, tu entends ces aides très louables, justement, qui vont vers les associations de la part de cette collectivité, notamment de la région Occitanie, mais le secteur privé, c'est-à-dire celui justement qui est pas vraiment aidé. Comment, il y a deux poids deux mesures là. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand Fontex?
Bon, moi, pour rebondir par rapport aux aides. Des régions, c'est un contrat gagnant-gagnant. Faut pas oublier qu'un festival comme celui des Vieilles Charrues ou d'autres, moi je travaille avec la région Île-de-France avec Valérie Pécresse et la région de France avec Xavier Bertrand, qui nous aident, mais c'est des contrats gagnant-gagnant. Les festivals, les très gros festivals, même les salles de spectacle, c'est aussi un poumon économique parce que ça fait partie d'un marché parallèle avec des emplois parallèles entre les restaurations, les hôtels, oui. Les transports, etc. Mmh. Donc évidemment, c'est un investissement pour les régions, mais il y a un retour sur investissement. Bon, pas le cas présent, mais il y aura un retour sur un investissement sur les régions. Bien sûr. Et pour rebondir par rapport au financement, que ça soit privé ou public, ce que je peux vous dire, c'est que à peu près 80% des producteurs de spectacles sont en autofinancement. C'est-à-dire que moi, pour ma société, c'est des fonds propres. C'est-à-dire que là, quand t'es venu, moi j'ai fait des prêts, j'ai fait le PGE, j'ai même, pour, si on veut rentrer dans les détails, mais bon, j'ai même été obligé de louer dans mes bureaux pour rentrer un peu d'argent dans la caisse et dégraisser parc de véhicules de société. Tu vois, on en est là dans les producteurs de spectacles privés. Après, il y a des gros groupes qui ont les reins un peu plus solides, mais ils sont aussi dans la tourmente. Certains sont obligés de dégraisser, certains sont obligés d'aller à la pêche aux investisseurs comme Live Nation ou Fimalac ou d'autres étaient obligés d'aller à la pêche aux investisseurs. Donc c'est vrai qu'il y a des subventions qui nous permettent de tenir actuellement. Mais voilà, c'est artificiel. Maintenant, il faut préparer un vrai plan de relance pour avoir ce fameux retour sur l'investissement. C'est pas par hasard qu'on nous donne des subventions. C'est justement, et que ça soit dans tout secteur d'activité confondu, c'est qu'on espère une reprise, une dynamique au sein des entreprises, au sein du, que ça soit les acteurs culturels ou d'autres acteurs de la vie sociale française.
Yvan, vous êtes nombreux de téléphoner. Ah, oui, pardon, vas-y, c'est Serge.
Juste ajouter un tout petit mot, Yvan, pour dire, j'ai bien entendu ce qui a été dit, que dire qu'évidemment, les politiques menées par les différentes régions, c'est le propre de la libre administration, ne se recoupent pas nécessairement, et que pour ce qui nous concerne à la région Occitanie, évidemment que nous finançons également des structures privées au sens de structures commerciales. Donc, pour ce qui nous concerne, on ne peut pas, si vous voulez, laisser penser à nos auditeurs que nous financerions uniquement, par exemple, les associations à but non lucratif, mais pas des opérateurs privés, et ce, dans tous les domaines. Par exemple, les librairies, les éditeurs, les exploitants de cinéma sont des entreprises parfaitement privées, et que nous finançons et qui ont un droit de tirage au même titre que les associations. Absolument. Et nous finançons d'ailleurs la plupart des grands festivals.
C'est Jérôme là qui a dit, au même titre, il faut faire attention à la diversité culturelle, justement. C'est bien, effectivement, la région Occitanie, visiblement, est très présente sur tout le secteur culturel, et c'est tant mieux, et c'est très bien, et c'est tant mieux pour tous les acteurs et pour tous les publics de la région. Maintenant, il faut faire attention, il y a une évolution dans le secteur des festivals qui peut tendre, selon les modèles économiques de certains festivals, sur les prises de participation ou les rachats, les acquisitions.
Absolument.
C'est un phénomène de concentration. Il faut faire attention à maintenir cette diversité culturelle. Et
absolument.
C'est très bien que vous ayez maintenu, et tant mieux pour vous.
C'est le vrai.
Pour vous, dans cet état d'esprit, et tant mieux pour tous les acteurs, et tant mieux pour le public. En Bretagne, il y a eu plein de choses aussi dans la même lignée, et dans plein de régions. C'était un peu le mot d'ordre qui avait été conseillé par le ministère de la Culture. Maintenant, il y a aussi un truc important, c'est la relance. Comment on refait des festivals? Ça va être important que tous les festivals, même si peut-être on sera obligé de s'adapter à des contextes sanitaires différents, d'être présents pour nos équipes, pour nos prestataires, pour nos bénévoles ou pour nos équipes, etc. Et pour le public, pour les artistes, qu'on soit présents l'été prochain. Et que là, on va avoir besoin aussi d'aide des collectivités. Alors nous, au Charru, on n'en a pas, et peut-être qu'il y aura des aides exceptionnelles, je l'espère. On essaie de les travailler avec les collectivités, avec le ministère, d'un plan d'aide à la relance. Et maintenant, il faut regarder vers devant. Il ne faut pas regarder derrière sur ce qu'on a fait, il faut regarder devant. Comment on fait une transition avant de repartir vers une situation, j'ai envie de dire, j'espère, presque normale, qui ne sera peut-être pas en 2021, mais en 2022.
Absolument. Merci Serge Regourd d'être passé dans ce Loft Musique, président de Commission Culture. C'est chouette. Merci beaucoup, Serge. À bientôt, Serge. Merci beaucoup. Président de la commission culture, je le disais, la région Occitanie, présidée par Carole Delga. Merci, Jérôme Triorel et Bertrand Fontex. Restez encore deux secondes, s'il vous plaît, parce qu'il y a sur le standard qui fume 0826-300-300. On va aller très, très vite parce qu'on a encore beaucoup de gens à écouter. Julien qui souhaitait poser une question. Julien, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Julien ?
Bonsoir. Je vous appelle de l'Essonne, dans le sud de Paris.
Et
moi, je voulais dire qu'il est important de préserver la culture, puisque c'est la dernière valeur ajoutée de notre pays aujourd'hui. On n'a plus d'industrie, notre élite se désosse complètement, toutes nos têtes partent dans les boîtes, les start-up à l'étranger, à Dubaï, aux États-Unis, etc. La dernière chose qu'on a, les vins français, ils sont ultra concurrencés par les vins chinois, les vins australiens. La dernière chose sur laquelle on peut encore exporter de la valeur, c'est la culture. Et on est en train de la détruire littéralement. Pour moi, c'est un scandale. Moi, je pense qu'il faut, coûte que coûte, continuer à aller dans les musées, continuer à aller dans les concerts, les soirées, continuer à vivre, quoi. C'est important. Je pense que la gravité du virus est bien moindre que la gravité de la perte de notre culture. Je pense que les dégâts seront bien plus grands, en fait, je pense.
Oui, on est bien d'accord. On est tous d'accord avec ça. Qui répond ? Qui réagit ?
Ah oui, oui.
Jérôme, très rapidement.
Oui, c'est important qu'on trouve des solutions pour revivre ensemble des moments d'exception, des moments de partage, des moments de culture, de musique, de tout. Après, la situation sanitaire, elle est quand même un peu compliquée. Elle est toujours pas sous contrôle. Donc, faut être vigilant. Faut qu'on respecte tous aujourd'hui encore les mesures barrières pour mieux redémarrer le plus vite possible ensemble. Ça, c'est important.
Si je peux juste me permettre, moi je suis soignant, je suis sur le terrain, je suis en réanimation, je vois exactement les complications, je vois exactement la pathologie des gens qui sont victimes. Croyez-moi, c'est pas 99% des personnes qui finissent en réa. Les gens qui se retrouvent en réa ont des comorbidités très très graves et qui font que quand bien même ils auraient une simple diarrhée, ils auraient pu se retrouver en réa pour une diarrhée. Hein. On sous-estime malheureusement trop les pathologies liées à l'obésité, au BPCO, les problèmes de respiratoire, etc. Je pense que l'ensemble de la population peut continuer à vivre. Les personnes qui sont fragiles, effectivement, vont devoir penser à se protéger plus en portant des masques FFP2, parce que c'est vraiment ça qui va être utile. Mais en aucun cas, priver tout le monde de vivre...
Allez-y, Julien, très rapidement, pardon.
Pour revenir très rapidement sur le sujet, moi, j'ai l'habitude de travailler avec les personnes âgées qui me disent toutes, mais on ne veut pas que les jeunes sacrifient leur vie aujourd'hui pour nous, alors qu'il nous reste 3, 4, 5 ans à vivre au grand maximum.
Mais c'est compliqué, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, Julien, que celui qui nous intéresse ce soir. Pardon, mais je le recentre un peu parce que c'est un autre débat. Et cette gestion, effectivement, dans un temps de crise, elle est extrêmement discutable, comme toute décision qu'on prend sur l'instant. Et ça, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, il faut gérer ce qui se passe, il faut voir comment on en sort, il faut voir comment on peut justement sauver les meubles dans le secteur culturel en particulier,
même si
j'entends ce que vous dites, et travailler ensemble. Merci beaucoup, Julien, d'être passé.
Pour redémarrer.
Absolument. Salut Julien, merci d'être venu dans le Loft Music. Je garde encore un petit peu Bertrand Fontex, producteur, et Jérôme Tréorel, le boss de... J'arrive à le dire maintenant, c'est pour ça que je le garde, des vieilles charrues. N'importe quoi. On va accueillir tout de suite Marie. Marie, elle travaille chez Ticket Swap. Et voilà qu'on va parler de quelques initiatives extrêmement louables, puisque Marie Barbier participe à cette initiative de sauvetage des salles de spectacle avec Simo et GoFundMe, qui est une plateforme de financement participatif. Et vous avez inventé, créé le local Legendy. Bonsoir Marie Barbier.
Bonsoir, merci. Bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir.
Très contents aussi. Ouais. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que le local Legendy? Legends.
Oui, donc les locales Legends.
C'est du sud-ouest, on ne se moque pas. Ouais.
Oui, donc c'est une campagne européenne qui a été lancée officiellement hier. Donc une campagne de collecte de fonds qui vise justement à supporter les salles de spectacle qui sont affectées, comme on en parlait justement maintenant, par toutes ces mesures imposées. Voilà, les salles qui sont affectées notamment parce qu'elles ont des coûts fixes. On a décidé de centraliser cette campagne sur les salles en demandant en fait aux individus et aux entreprises de supporter les lieux qu'ils ont l'habitude de fréquenter, car aujourd'hui les subventions ça ne suffit plus, et donc créer cette prise de conscience pour que les gens réalisent que si s'ils nous aident pas, il y a des chances que ces salles ne soient plus là quand, quand l'activité redémarrera. Ouais. Donc c'est aussi voilà, ça montrer que une c'est aussi une perte, ouais. Voilà, une perte pour eux, et qu'aujourd'hui on a besoin de leur aide. Et donc voilà, centrer ça sur les communautés locales, puisque c'est au niveau régional que tout commence.
Oui, oui. Marie-Barbie, voilà. En fait, on peut dire quand même, vous serez tous certainement d'accord avec moi, Bertrand Fontaine, Jérôme Tréorel et vous, Marie-Barbie, qu'au moins cette crise, si on peut regarder un aspect positif, s'il en est, permet de remettre à plat un certain nombre de choses et de voir à quel niveau, justement, la culture est importante économiquement et évidemment dans nos vies, mais aussi de se poser des questions de remise à zéro. C'est-à-dire, peut-être on peut réinventer des choses, on peut modifier des choses, et peut-être que la population, une partie de population qui s'y intéresse pas d'habitude, va se sentir un peu plus concernée et va voir l'importance réelle de la culture dans nos vies. Jérôme.
Alors, en effet, oui. Alors, dès le début de la crise, hein, je peux vous dire que quand on a commencé à analyser que dès le début du confinement, que sur différents critères, je vais vous les donner, indépendamment de l'évolution de la situation sanitaire, on avait parlé la dernière fois où j'étais intervenu avec vous, il y avait un problème avec des artistes étrangers qui n'allaient pas pouvoir venir, donc qui allaient forcément générer des demandes de remboursement de billetterie. On avait des partenaires privés qui étaient impactés communément par la crise, qui allaient forcément nous mettre en difficulté supplémentaire au niveau des finances. Et puis après, on avait un autre secteur que peut-être les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils le voient pas, mais c'est une obligation pour nous et c'est important pour nous. Sur le secteur de du secours à la personne, on avait, nous au Vieille Charrue, on a 250 secouristes et 50 médecins urgentistes et ça qui sont présents sur le site. Ils étaient en première ligne. Donc on savait que dès le début, il n'y aurait pas eu le festival. On s'est battu avec on a échangé avec le ministère et tous les festivals, les producteurs, les salles, etc., pour avoir un arrêté d'interdiction. Ça nous ça nous empêchait de devoir honorer des contrats en cours. Les contrats en cours, il y en avait très peu, mais c'était l'artistique. C'était, il y avait, moi, pour les Vieilles Charrues, c'était 5 millions. Et après, on a essayé, vu que ça n'arrivait pas aussi vite que l'on voulait, essayer de travailler avec les producteurs pour, eh ben, au lieu d'aller au contentieux les uns les autres, essayer de redémarrer, de faire un plan de relance, de dire, ben, on va reprogrammer en 2021.
Ça veut dire qu'on trouve des idées et que peut-être on peut profiter de ce moment-là. C'était ça ma question, pour remettre des choses en place.
Il faut se réinventer. Mais moi, ce que je veux dire, c'est se réinventer et trouver des solutions en mobilisant aussi les collectivités, parce que les festivals, et là on l'a compris cette année, ont un impact économique et social sur les territoires, plus que l'automobile. Alors je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est un impact très fort. Mais derrière, je ne veux pas, et moi c'est le mot d'ordre au Vieille Charrue, que ce soit impactant pour les festivaliers, que le billet d'entrée soit plus cher. Donc trouvons entre les producteurs, les organisateurs, les collectivités et l'État, et l'État qui était plus présent sur les festivals de musique actuelle, et là on revient dans le game avec eux, comment trouver des solutions pour redémarrer de manière équitable avec une vraie diversité.
Ok, Jérôme. Marie-Barbier, vous avez une démarche européenne là pour le coup. Comment vous avez pu fédérer les autres structures et comment vous échangez? Est-ce que cette crise a permis peut-être ces rapprochements entre structures et les a facilités, les a fluidifiés, Marie-Barbier, de Ticket Swap?
Oui, ben nous, nous en fait, on a contacté Cosimo, qui est une entreprise néerlandaise qui aide justement financièrement les entreprises des arts du spectacle. Et par ce réseau, on a contacté GoFundMe, qui a aussi une certaine notoriété au niveau européen.
Mondial.
Et donc voilà.
Mondial,
Oui, voilà, c'est ça. Donc on voulait aussi bénéficier de cette visibilité et montrer qu'en fait, c'est la même chose dans tous les pays aujourd'hui. Et que voilà, c'est il n'y a pas de honte à avoir à demander de l'argent aujourd'hui, puisque toute façon c'est un impact voilà pour les gens s'ils veulent pouvoir se participer à ces événements, se retrouver dans les salles qu'ils ont l'habitude de fréquenter, c'est leur responsabilité également aujourd'hui de les soutenir.
Oui, on est d'accord. Et puis Marie-Barbier, on le disait, je le redis, c'est l'occasion aussi de montrer à quel point la culture est fondamentale dans nos vies, à quel point les salles de spectacle sont des lieux éminemment fréquentables et qu'il faut s'y reprécipiter dès que tout ça va se relancer. Merci Barbier, Marie, d'être passée nous voir de Ticket Swap à propos de cette initiative Local Legends. Merci d'être passée, Marie-Barbier. Je reste avec Jérôme Tréorel, Bertrand Fontex. On va accueillir tout de suite Philippe Dumas, directeur de l'Apollo Théâtre à Paris. Paris qui organise des concerts en live stream. Salut Philippe, bonsoir, merci d'être là mon Philippe.
Oui, bonsoir, je suis bien Philippe Delmas.
Oui, j'ai dit quoi, Dumas, j'ai dit comme Alexandre,
Bertrand, putain, n'importe quoi. Qu'on se connaît.
Mais oui, en plus, bonjour, c'est pas tout. Comme si on se connaissait pas, Philippe, n'importe
exactement,
quoi.
Exactement, oui.
Juste avant, mon Philippe, juste avant que tu interviennes, je voulais vous faire part de ce sondage qu'a fait Enzo Ramos pour nous sur Sud Radio et dans le Loft Music, à propos de la question, êtes-vous prêt à retourner dans les festivals et dans les concerts, dans les salles de spectacle? On a un oui sur Twitter, hein, c'était le sondage, à 84%. C'est-à-dire que les gens sont quand même pas traumatisés, visiblement, en majorité, par cette crise et sont prêts à réinvestir les lieux. C'est rassurant, ça, Philippe Delmas, quand même.
C'est une bonne nouvelle. Et puis, on n'a jamais pensé que les gens déserteraient les salles après la pandémie. Au contraire, ils vont s'y précipiter parce qu'ils auront besoin de se divertir. Et c'est évident que je vois pourquoi, surtout qu'il y en a pour tous les prix, je vois pourquoi les gens ne viendraient plus dans les salles de spectacle ou dans les salles de concert.
Oui, parce que peut-être des habitudes nouvelles peuvent être prises. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des plis qui sont créés dans ces périodes de crise où on change des habitudes. Donc il y a toujours le risque de les garder après, alors qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Par exemple, les visioconférences, vous êtes tous d'accord que le fait qu'elles aient émergé pendant cette crise va permettre qu'elles continuent et dans des raisons positives. C'est-à-dire que ça amène des choses vachement intéressantes. Donc ça, c'est des habitudes nouvelles qui vont être intéressantes.
Oui, c'est intéressant. Nous, à notre niveau, vous le savez, on a fait, vous parlez de visioconférence, on a fait du streaming live depuis le mois d'avril. On a développé ce système un petit peu seul au début, puis on a vite vu qu'on était copié, c'est super, par d'autres personnes qui se sont rendues compte que finalement, le streaming live associé à un public salle, parce que ça peut être un streaming live avec également du public en salle, c'est ouvrir d'autres perspectives et surtout agrandir le public.
Comment ça se passe, Philippe Delmas, en deux mots, comment ça se passe ce streaming live à l'Apollo Théâtre, qui est une petite jauge quand même, l'Apollo, hein ?
L'Apollo, il y a quatre salles de spectacle, la plus grande fait 300 places.
Oui, c'est ouvert petit pour des gens comme Patrick Fiori ou etc. quoi. Donc
ça se passe comment ? C'est très grand, ouais. Puisque vous ouvrez avec le streaming live un public peut-être du monde entier. Ouais. Donc effectivement, en public physique, vous avez 300 places payantes les jours où on pourra mettre du monde dedans. Mais vous avez des millions de gens, je dirais à peu près une centaine de millions de gens francophones. Je ne parle pas de la francophonie en général, parce que c'est 300 millions, hein. Mais de Français, de Belges, de Québécois, d'expatriés, donc vous touchez un public beaucoup plus large. Et souvent, on touche un public qui ne va pas souvent dans la salle de spectacle. Donc ça, c'est intéressant. Parce que nous, on a fait à peu près 40 dates de streaming live à l'Apollo depuis le début. Et on s'est aperçu, parce qu'on parle beaucoup avec les gens, que certains ne sortent jamais au spectacle ou très très peu. Et finalement, on va aller chercher ces gens chez eux, dans leur canapé. Et au lieu de regarder un film à la télé, un Netflix ou autre, on va leur vendre du spectacle en direct. Et ça, c'est intéressant.
C'est, la différence, c'est le direct, la notion de direct qui est intéressante, parce que des spectacles à la télé ou en vidéo, on peut en regarder plein. C'est que là, la différence, c'est le direct, éminemment.
Oui, parce que si vous voulez que c'est diffusé en télé, ce sont des captations qui sont faites avec de gros moyens, ce qu'on voit tous. Et là, c'est autre chose. C'est un concept où vous êtes dans la salle avec l'artiste. C'est un peu cocooning et vous avez l'impression de partager ce moment avec lui. Il ne s'agit pas de refaire sur scène le concert qu'il pourrait faire en tournée. Ça n'a aucun avantage. Oui. Sinon, on fait de la télé.
On avait Fabien Olicard hier qui nous disait exactement ça et qui sera chez toi, Philippe Delmas, le 22, c'est-à-dire dimanche à 20h. Il y aura les hypnotiseurs le 27 novembre à 20h. Tom Leb le 12 décembre à 21h. Et Lien de Folie en piano-voix le 16 décembre à 21h pour tous les spectacles en live stream. Le modèle économique, très rapidement, parce que je voudrais finir avec Éric Lafond qui attend. Le modèle économique, Philippe Delmas, c'est quoi comment on fait pour. On paye combien pour assister au spectacle ?
Ça dépend des spectacles, c'est entre 8 et 15 euros. Et on reçoit un lien et il faut une bonne connexion, sinon il peut y avoir des coupures. Mais ça vient des gens, ça dépend de. En principe, ça marche bien. Et voilà, et donc on reçoit un lien sur lequel on se connecte le jour J et puis on a le spectacle en direct pendant une heure et quart.
Mais ça veut dire, Philippe Delmas, directeur de l'Apollo, qu'il n'y a pas de limite de jauge. Si tu fais 5 millions de personnes qui vont regarder le spectacle, ça fait 5 millions multipliés par 15 euros, c'est pas mal. Parce que là, Bertrand Fontex, il va être vert de jalousie. Hein. Il ne fera jamais ça comme chiffre d'affaires, Bertrand Fontex.
Je peux rebondir, mon cher Yvan, là-dessus. Oui. Le streaming, c'est intéressant, comme Philippe, qui est mon ami d'ailleurs et qui est membre du Prodis depuis 25 ans, mais le streaming, c'est intéressant pour des gens comme lui qui ont su le développer par en termes de viabilité. Nous, le problème qu'on rencontre en tant que producteur et festival, c'est-à-dire que tous les streamings ou les rediffs que tu vois à l'antenne sur différentes chaînes de télé, c'est pour nous rien. C'est-à-dire que nous, on est producteurs de spectacles, on produit des artistes sur notre scène, mais contractuellement, on ne peut pas, on n'a aucun droit sur la retransmission du spectacle. C'est la maison de disques et les artistes et les ayants droit qui retouchent, et Jérôme Tréorel abondera dans mon sens. Donc Philippe a instauré ce streaming, c'est bien. D'ailleurs, je vais l'inviter à la prochaine AG du Prodis, ça me donnait un peu en termes de viabilité si c'est intéressant ou pas. C'est un test. Beaucoup s'est engagé. J'ai vu qu'il y avait Slimane Vita, Pokora, Jennifer.
Qui il a une jolie programmation.
Moi, je demande à voir la viabilité de cette chose. Moi, je suis très intéressé.
On en reparlera.
Alors, maintenant, pour finir là-dessus, moi, je suis le défenseur pur et dur du spectacle vivant. C'est vrai que ce terme n'est qu'une solution transitoire, tu vois, le streaming. Il faut quand même penser au spectacle vivant. Moi, je suis né dans le spectacle vivant, tu vois.
Non, mais bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Philippe Delmas, merci. Le directeur de l'Apollo était avec nous, encore pour quelques minutes. Pour moi, le temps de vous dire que Fabien Olicard, il sera à l'Apollo Théâtre le 22, donc dimanche, les hypnotiseurs, Tom Leb, Liane Folly en mode piano-voix, et redire que l'Apollo, en dehors du live stream, fait de jolies programmations tout au long de l'année. On finit avec Éric Lafond, administrateur délégué du groupe La Dépêche du Midi, pour la partie events. Bonsoir Éric Lafond, merci d'être là, en direct.
Bonsoir à vous, bonsoir Yvan, et merci de m'accueillir.
Éric, juste un petit mot pour finir, on a très peu de temps parce qu'on a beaucoup parlé, pour parler de la partie events, c'est-à-dire les événements qui aussi emploient beaucoup d'intermittents du spectacle notamment, et qui est aussi évidemment sinistré parce que on en parlait l'autre fois, Éric, quand on met au chômage partiel dans une boîte d'événementiel par exemple des gens, c'est difficile parce qu'il faut quand même garder des esprits présents et des gens qui travaillent pour concevoir les événements de demain. C'est une gestion de personnel, de ressources humaines, très très sensible ça, Éric Lafond.
Effectivement, il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut continuer, on plante aujourd'hui les graines des événements de demain, et c'est vrai que le rapprochement avec la culture, c'est qu'aussi dans ces événements, il nous arrive de faire travailler beaucoup de personnes, des intermittents du spectacle, bien sûr des techniciens dans le son, dans la lumière, mais aussi des artistes sur certaines manifestations, du spectacle vivant encore une fois. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour nous, c'est une équation économique avant toute chose, bien entendu. Lorsque l'on crée un événement, il faut qu'on assure sa rentabilité. Et pour ça, il faut travailler longtemps à l'avance. Pour les plus gros événements, c'est parfois 2-3 ans avant qu'ils sont travaillés, lorsqu'ils sont internationaux. Et aujourd'hui, effectivement, nous travaillons à l'échelle régionale sur des événements qui se dérouleront en juin, septembre, octobre, l'année prochaine, un peu comme les festivals qui s'organisent d'une saison sur l'autre, voire même d'une saison sur deux saisons plus tard, pour trouver les plateaux d'artistes et ainsi de suite. Donc oui, il faut le travailler maintenant. On ne peut pas mettre tout le monde au chômage partiel. Ce n'est pas une solution en soi.
Et oui, Éric Lafond du groupe La Dépêche du Midi qui participe justement, qui collabore avec beaucoup de festivals dans la région, avec Pause Guitare notamment. Il y a une vraie synergie entre un média comme La Dépêche du Midi et des événements comme le festival Pause Guitare ou d'autres. Ça, c'est aussi fondamental. Ça fait des échanges qui, là, sont à l'arrêt évidemment, mais qui sont fondamentaux dans le tissu culturel, justement, Éric Lafond.
Alors, au-delà effectivement de notre activité événementielle, l'activité de média, c'est aussi de faire savoir, et c'est effectivement travailler main dans la main avec les acteurs du territoire. Les acteurs du territoire, c'est parfois des clubs de sport, c'est des associations diverses et variées, mais c'est aussi des événements culturels, bien entendu, et surtout des événements culturels. Aujourd'hui, bien que nos partenariats soient à l'état à l'arrêt, puisqu'il n'y a plus d'événements à proprement parler, on continue d'essayer de travailler avec eux, en leur proposant, par exemple, de dialoguer aussi avec leurs bénévoles, on en parlait tout à l'heure, leurs adhérents,
ou tout au moins effectivement leur public divers et varié, le public interne entre guillemets, ceux qui font vivre l'événement au moment et ceux qui viendront au moment du spectacle. Il faut continuer de conserver ce lien. On les aide en cela et on a mis en place un système pour les aider au travers de nos éléments de communication.
Merci beaucoup Éric Lafond.
Toute une chaîne de solidarité, vous l'avez beaucoup dit ce soir, effectivement, c'est vrai que c'est énorme cette solidarité entre tous et on est tous imbriqués les uns avec les autres dans notre travail. Ouais. On a besoin les uns des autres de se serrer les coudes. Merci à vous et à vous d'en parler.
Absolument. Merci Éric Lafond du groupe La Dépêche du Midi. On remet à plat beaucoup de choses dans cette crise justement et c'est bien d'échanger tous ensemble. Merci Philippe Delmas, directeur de l'Apollo Théâtre. Merci d'être passé mon Philippe. Marie Barbier était là. Merci Jérôme Tréorel, oui je l'ai encore bien dit. Merveilleux, directeur des Vieilles Charrues. Merci Jérôme d'être là, fidèle avec nous dans le Loft Music. À bientôt Jérôme. Merci Bertrand Fontex d'être passé également. Merci Serge Regour. Lundi, ce sera Ibrahim Malouf. Mardi, Chimène Badi. Assaf Avidan mercredi. Et tout de suite, Muriel Hermine. Bonsoir. Bye bye.